Connaissez-vous le métier de journaliste? Nous, on est des jeunes du Pré-Saint-Gervais et pendant une semaine, on est devenus journalistes.
En décembre, pendant les vacances, on a fait un stage avec la radio Transsonore.
On a rencontré plusieurs personnes pour découvrir leur métier en rapport avec la solidarité et l'écologie.
On a appris à utiliser un micro, on a posé des questions pour faire une interview et on est parti en reportage.
On est allé au préavis à la Cité des sciences et de l'industrie au 36, l'espace jeune de la ville du Pré-Saint-Gervais.
Dans ce nouvel épisode, Transsonore vous fait découvrir un éco-designer.
Vous écoutez un podcast Transsonore. Transsonore, la transition et l'insertion par le son.
Bonjour, je m'appelle Mathieu, enchanté.
Mathieu est designer.
Bonjour.
C'est même un éco-designer.
Ça vous dit qu'il prend soin de la planète.
On a rendez-vous avec lui dans un de ses lieux de travail, le Fab Lab de la Cité des sciences et de l'industrie, au parc de la Villette.
C'est là qu'il fabrique ses jeux de société en bois.
On a descendu des escaliers avec lui pour arriver au sous-sol, dans une salle où il y avait plein de machines.
Des imprimantes 3D.
Une découpe laser.
Une brodeuse numérique.
Un découpe vinyle.
Et aussi une scie circulaire beaucoup trop brillante. On a fait l'interview de Mathieu au milieu de ce bazar organisé.
On y va, c'est parti. Bienvenue à la Cité des sciences et de l'industrie. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment totalement transparent, réalisé à la fois avec des structures métalliques, du béton, tous les câbles, tous les tuyaux. Donc vous avez au rez-de-chaussée des espaces gratuits et communs comme la Cité des enfants, bibliothèque, un café. Et à l'étage, vous avez les expositions, donc les visites payantes. On va pas le faire aujourd'hui, nous on va s'intéresser à ce qui se passe en dessous. C'est un peu la partie obscure de la Cité des sciences, dans le Fab Lab qu'on va découvrir en bas.
Vous savez ce que c'est un Fab Lab ?
Un labo de fabrication.
Exact, belle déduction. Fab pour fabrication et lab, laboratoire. C'est un lieu où on peut expérimenter et fabriquer des objets, des outils, à travers des usages numériques principalement. Et le lieu qu'on va voir est totalement gratuit. C'est des notions qui sont importantes dans la création et dans l'expérimentation du côté laboratoire. La gratuité et l'échange des savoirs et des connaissances. Donc si vous êtes d'accord, on descend.
Allez.
Allez, go. Le Carrefour numérique, c'est un pôle de la Cité des sciences dans lequel on retrouve à la fois un Fab Lab et d'autres espaces où on peut venir y travailler gratuitement. Et nous organisons un atelier autour de la fabrication d'un jeu. Vous pouvez venir dessiner, fabriquer et concevoir votre jeu à travers du coup, les outils qu'on va découvrir dès maintenant. Alors, on va faire un petit tour des machines. On peut commencer par celle-ci qui est en fonctionnement. Donc ça, c'est une imprimante 3D. Qui en a déjà vu ? Sur TikTok ? Ouais, bah écoute, TikTok a des
liens. J'ai vu en vrai.
En vrai ?
C'est une machine avec qui on va communiquer à travers un fichier en trois dimensions qu'on va modéliser. Là, c'est une machine qu'on appelle découpe vinyle. Donc il va découper, alors à l'inverse d'un fichier en trois dimensions, on va lui envoyer un fichier en deux dimensions. Donc c'est un dessin.
C'est pour les flocages de t-shirts.
Voilà. La machine en fait va découper précisément la forme qu'on a dessinée sur notre feuille de autocollante, qu'on va ensuite mettre sur le t-shirt et presser avec une presse à chaud. Voilà, ça a été floqué, le petit chien là, il a été dessiné, floqué, voilà. Il y a une certaine complexité qu'on peut atteindre à travers le numérique. Ici, est-ce que vous connaissez cette machine ? Elle est un peu plus commune. C'est une machine à coudre. Et là, on a la version 2.0. Alors, c'est pas une machine à coudre, mais c'est une brodeuse numérique. Donc, ça permet en fait de broder. Donc là, on voit la machine, il y a un écran. Là, ici, on peut tendre notre tissu. Donc là, on voit à l'écran un dessin basé sur des points connectés entre eux, permettent du coup, à la fin, de en tirer un dessin qui suit et qui est parfaitement réaliste. Donc là, la machine qui est utilisée par le monsieur à droite permet en fait de découper, comme la découpe vinyle, des feuilles. Donc ça peut être des feuilles de papier, des feuilles de bois, de cuir, de tissu. Donc ça, ce sont des jeux qui sont aussi réalisés avec la machine. Donc en fait, dans la machine, on va mettre une planche. Donc ça peut être une planche de cette épaisseur, ça peut être une planche de cette épaisseur. Et moi, en fait, j'ai dessiné ça sur l'ordinateur et à la fin, la machine va découper en suivant les dessins. Donc, on peut à la fois découper la matière et aussi enlever une partie tellement infime de la matière qui permet de graver mes plateaux. Et une fois que c'est gravé, moi, j'ai imaginé en fait tout un système d'assemblage avec des cales ici des trous et des cales pour assembler nos différentes planches. Et donc, à la fin, dès que notre jeu est construit, on a en fait tous nos pions qui sont rangés dans les épaisseurs. Donc ça, c'est mon travail de design. C'est comment, en fait, dessiner. Donc, design, ça vient du mot dessin, du mot français dessin. Et comment on va produire notre objet, pourquoi, dans quel objectif, pourquoi on le fait avec ces matériaux-là. Il y a beaucoup de questionnements autour de tout ça. J'ai dû faire une vingtaine de prototypes pour arriver à quelque chose d'abouti comme ça. Beaucoup d'expérimentations, beaucoup d'échecs. On passe par l'échec, on passe par l'erreur énormément, énormément, énormément. Donc l'erreur fait partie de l'expérimentation du côté laboratoire expérimental. Ce jeu-là s'appelle le jeu du roi d'Ur, D-U-R, qui est un jeu qui a été créé il y a à peu près 5500 ans. C'est le premier jeu de plateau qu'on ait découvert dans l'histoire de l'humanité en Mésopotamie.
On voudrait vous poser des questions pour en savoir plus sur votre métier.
Moi, je suis designer de formation. Designer, comme je vous le disais, c'était un terme qui provient du mot dessin. Donc ça passe à la fois par beaucoup de dessin à la main, beaucoup de recherche sur le papier, et après de relier en fait ces dessins-là à des objets, des usages, des services. Moi, je travaille plus autour du jeu. Donc comment, à travers le jeu, on peut créer et rassembler des personnes, des joueurs, des joueuses autour d'un objet, comme vous avez pu les voir ici au Fab Lab.
Quand avez-vous commencé votre carrière ?
J'ai commencé ma carrière il y a 2 ans, quand j'ai fini mes études de design à Nantes.
Quelle a été votre formation ?
Ma formation, je sors d'une école de design qui s'appelle l'école de design de Nantes. Et dans cette école, on fait quoi ? On réfléchit autour de problématiques actuelles, des enjeux de notre société, et essayer d'y apporter, avec toute l'humilité qu'on a, des solutions. Au début, j'avais commencé plus autour de l'architecture, et donc une échelle un peu plus grande. Je me sentais un peu dépassé par ces dimensions, et je voulais me recentrer plus sur le rapport au corps, le rapport à l'objet, quelque chose de réel et de concret.
Et quel a été votre déclic pour devenir éco-designer ?
Le côté éco-designer, en fait, s'implante entièrement dans l'air du temps. Pour moi, l'éco-designer est simplement un designer du monde contemporain. Il faut évidemment, quand on crée des objets, penser toute la vie de l'objet, de sa création à sa mort. Et qu'est-ce qu'on en fait après ? Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'une voiture ou d'un iPhone, la plupart du temps, les voitures et les iPhones sont difficilement recyclables et utilisables. Donc ça soulève aussi des problématiques pour notre futur.
Comment vous faites pour être écologique dans votre métier ?
Alors, à la fois sourcer en effet les matériaux qu'on utilise, d'utiliser pour le coup simplement du bois qui est produit en France, et de concevoir au maximum localement, d'induire un minimum d'intrants dans ma fabrication, donc pas de colle.
Qu'est-ce que vous faites avec les chutes de bois vraiment inutilisables ?
Très bonne question. En effet, cette problématique-là, je la soulève au quotidien et je n'ai pas encore trouvé de solution. J'ai fait la visite de plusieurs centres de tri, donné quelques chutes aussi qui ont été détournées en pions pour des jeux. Néanmoins, voilà, j'ai pas encore de solution sur cette question.
Où est-ce que vous fabriquez les jeux ?
À la fois dans des Fab Labs, comme celui où nous sommes. Je travaille également avec une entreprise française qui s'appelle NKD. Cette entreprise m'aide également à concevoir des jeux en plus grande quantité quand j'en ai besoin.
Pourquoi vous avez fabriqué des jeux et pas d'autres objets ?
C'est une très bonne question. Durant mes études de design, à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de dessiner du mobilier, donc des chaises, des tables. Je préférais déconstruire mon métier en me disant pourquoi je suis designer, donc quel est mon objectif aujourd'hui ? Est-ce que c'est vraiment recréer une énième table, une chaise ? Ou repenser aux usages et aux interactions humaines entre nous. C'est pour ça que je me suis reconcentré autour du jeu. Le jeu m'est apparu indispensable en fait aujourd'hui pour à la fois partager, pour oui simplement jouer et sortir des normes du design qui se veulent très axées sur du mobilier et sur des choses très contemporaines finalement. Je suis allé chercher des jeux du monde, simplement en m'intéressant simplement aux échecs et aux dames, qui sont deux jeux qui proviennent, enfin on ne sait même toujours pas d'où proviennent ces jeux, enfin du moins le jeu d'échecs, on ne sait pas vraiment d'où il provient. Il y a beaucoup de pays qui se battent pour savoir, bah non, il vient d'Inde, non, il vient plus d'Irak. J'ai vite compris que les jeux voyageaient à travers le monde, et à travers ces voyages, les jeux c'est un peu comme les humains, c'est-à-dire qu'ils s'inspiraient, ils évoluaient, ils changeaient, ils rebondissaient, ils s'inspiraient d'autres jeux, il y avait des variantes créées, et beaucoup d'évolutions à travers le monde et les pays. Le jeu de loi, le Bagamon, le Morpion par exemple, ou le Puissance 4. Ces jeux-là ont été inspirés de jeux ancestraux qui aujourd'hui sont oubliés. Donc voilà, c'est cette notion à la fois historique et géographique qui m'a inspiré dans la volonté aussi de grandir en compétences et en savoir.
Aimez-vous votre métier ?
Oui. J'adore mon métier. Je ne changerai pour rien au monde. Et d'autant plus la voie que j'ai prise où aujourd'hui j'interviens principalement auprès de jeunes publics, où le jeu n'est plus un simple divertissement, mais un outil en fait pédagogique. On peut travailler notre géométrie, la stratégie, la probabilité, les mathématiques, on peut travailler aussi l'histoire des jeux, la géographie. Donc tout ça est tellement passionnant qu'il n'y a pas de limite en fait.
Où est-ce qu'on peut trouver vos jeux? Est-ce que vous les vendez ou...
Je fais à la fois de la vente commerciale, même si ce n'est pas le gros de mon activité, mais mes jeux sont principalement distribués à travers des ateliers en classe où nous utilisons le jeu comme un outil pédagogique.
Et est-ce que vous avez d'autres projets écologiques ou... Ou alors, est-ce que vous voulez continuer avec les jeux?
Avec l'association, nous travaillons également sur des notions d'alimentaire à travers des fours à pain, des fours solaires, les différentes phases de fermentation.
D'accord, merci beaucoup. Une petite dernière chose à rajouter ou pas?
Bah, je vous remercie à tous pour votre curiosité d'être venu dans ce lieu qui est le Fab Lab.
Ce podcast a été réalisé par...
Kadiatou, Simon,
Connard,
Abou,
Margot...
Avec l'aide de Laure Vatrin de l'association Transsonore, Agnès Rimbaud, Sylsfe Bertilli, Ninon Strebler et Carole Devalon.